RFI, il est 5h30 à Kinshasa, 6h30 à Goma. Et c'est le début d'une demi-heure d'actualité africaine avec Sébastien Duhamel. Bonjour Sébastien.
Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous.
Et à la une, la situation très précaire à Goma, dans l'est de la RDC.
De nouveaux combats constatés hier dans la matinée avant qu'un calme précaire ne s'installe dans l'après-midi. La diplomatie s'active également pour trouver une issue. Le président kényan convoque aujourd'hui un sommet extraordinaire de la communauté d'Afrique de l'Est. Un rapport remis hier au président camerounais, un document de 1000 pages qui pose la responsabilité de la France dans la guerre contre les mouvements indépendantistes du Cameroun entre 1945 et 1971. 14 chercheurs français et camerounais appellent Paris à reconnaître son rôle. Également au menu, une campagne des autorités tchadiennes auprès des prostituées pour lutter contre la prostitution. Les problèmes de don du sang et les moyens d'y pallier à Madagascar. La sortie de la CEDEAO des trois pays de l'AES, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, s'est actée aujourd'hui le 29 janvier. Quelles conséquences économiques? Ce sera notre dossier Afrique Économie. Notre reportage à ne pas manquer également sur ces morceaux d'histoire, des témoignages, des archives sonores de tirailleurs tunisiens de la Première Guerre mondiale. Des terrains plus légers, avec l'actu sport également, comme tous les jours. Soyez les bienvenus sur RFI. Relative accalmie donc enregistrée hier après-midi sur le front de Goma, dans l'est de la RDC. Mais dans la matinée encore, la ville a été le théâtre d'échanges de tirs. Une ville sous le feu depuis dimanche, des affrontements entre les forces congolaises et les éléments du M23 soutenus par le Rwanda. Situation au cœur d'une nouvelle réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies, hier la deuxième à New York en l'espace de 48 heures. La chef de la diplomatie congolaise s'y est exprimée. Thérèse Kayikwamba Wagner a rendu hommage aux quatre casques bleus tombés à Goma. Elle a surtout interpellé la communauté internationale une fois encore sur les agissements du Rwanda.
Les forces de défense rwandaises et leurs supplétifs du M23 ont franchi nos frontières, occupé nos villes et nos villages, chassé nos compatriotes de leurs foyers et instauré une administration parallèle en violation du droit international et ce, en violation des positions claires de ce Conseil. Jusqu'à quand le Rwanda continuera-t-il d'abuser votre respect et de votre autorité? Quel instrument international doit-il encore violer pour que ce Conseil prenne enfin les mesures nécessaires contre Kigali? De la Charte des Nations Unies au droit international humanitaire, aux droits de l'homme, en passant par les processus de paix de Luanda et de Nairobi, le Rwanda a prouvé que vos déclarations ne lui importent guère. Le Rwanda a frappé l'Afrique et l'Amérique latine en tuant des militaires sud-africains, malawites et uruguayens venus protéger les civils. Il a frappé ce Conseil en tuant des casques bleus de la MONUSCO. À quel seuil de catastrophe humanitaire et de violation flagrante de notre territoire devrez-vous enfin agir pour sanctionner les responsables du M23 et les officiers rwandais et leurs complices? Laisser cette crise s'enliser sous prétexte qu'elle serait un problème africain nécessitant une solution africaine revient à trahir l'esprit de solidarité internationale qui fonde cette organisation.
Voilà les mots de Thérèse Kayikwamba Wagner hier au Conseil de sécurité des Nations Unies sur le champ de la diplomatie. Justement, un sommet extraordinaire de l'AEC, l'EAC, la communauté des États d'Afrique de l'Est, est attendu aujourd'hui sur invitation du président kényan. William Ruto tente ainsi de ressusciter le processus de Nairobi face à l'échec pour l'heure du processus de Luanda. Le président kényan, à la tête de l'EAC depuis novembre, a annoncé la participation de Félix Tshisekedi et de Paul Kagame. Mais de leur côté, les présidences congolaises et rwandaises n'ont pas confirmé. Notons en tout cas dans ce volet diplomatique la réaction de l'Allemagne, qui a décidé de suspendre son aide au développement à destination du Rwanda, à l'heure où les condamnations se multiplient à l'endroit de Kigali. Mais là-bas, le gouvernement rwandais réagit également et répond à la communauté internationale. Son porte-parole, le porte-parole du gouvernement rwandais, Alain Mukuralinda, dit ne pas craindre les sanctions internationales.
Tant que le Rwanda pourra, au niveau diplomatique et dans d'autres forums, expliquer, à commencer par le Conseil de sécurité, expliquer ce qui se passe réellement, quel est le problème, le Rwanda n'a pas à avoir peur à subir des sanctions. Mais tant qu'on dit qu'il y a un problème de sécurité et que ceux qui doivent prendre les sanctions ont des rapports qui ont été faits par leurs propres institutions, qui disent que le problème que le Rwanda pose est réel, je ne vois pas pourquoi le Rwanda devrait subir des sanctions. Et sauf si on considère que la RDC et son gouvernement n'a aucune responsabilité dans ce qui se passe. Et aujourd'hui, c'est comme ça que ce gouvernement se comporte. C'est comme si toutes les responsabilités sont sur le Rwanda et les autres. Eux sont des saints. Est-ce que si on prend des sanctions, c'est cela qui va résoudre réellement les problèmes de ce qui se passe là-bas? C'est une façon d'utiliser peut-être la force ou la persuasion, mais sans avoir réellement discuté et résolu les problèmes qui s'opposent.
Alain Mukuralinda, le porte-parole du gouvernement rwandais. Et cette guerre dans l'est de la RDC, le sort de la ville de Goma qui a déjà payé un lourd tribut humain. On en parlera encore après le journal. On fera un point avec notre invité Bruno Lemarquis, représentant spécial adjoint et coordonnateur humanitaire de l'ONU en RDC.
RFI à Yaoundé, 105.5 FM.
Une semaine après sa remise au président français, un rapport remis hier au président camerounais à Yaoundé. Le travail de 14 historiens français et camerounais sous la direction de la chercheuse Karine Ramondi. Ils ont étudié pendant près de 2 ans le rôle de la France dans la répression des mouvements indépendantistes camerounais entre 1945 et 1971. Un document de 1000 pages au final, confirmant que Paris a bien mené une guerre contre les indépendantistes camerounais, une guerre marquée par des violences extrêmes. Florence Maurice, les auteurs de ce rapport invitent Emmanuel Macron à reconnaître officiellement le rôle et la responsabilité de son pays.
C'est bien une guerre de décolonisation, selon les termes retenus dans ce rapport qu'ont mené les autorités coloniales et l'armée française au Cameroun, au même titre qu'en Indochine ou en Algérie. Une guerre totale, estime l'historienne Karine Ramondi, qui se joue sur le terrain militaire, donne lieu à des massacres, des rafles, des déplacements massifs de population, mais s'exerce également sur les terrains administratifs, judiciaires et politiques. Nous avons documenté la mise en place d'une justice racialisée et inégalitaire, a expliqué l'historienne lors de la remise du rapport au président Biya. Ainsi, je cite, qu'un système politique marqué par la censure, l'iniquité et la mise en place de faux partis cooptés par les autorités françaises. Fin de citation. Cette guerre amorcée, selon le rapport dès 1945 après la Seconde Guerre mondiale, s'est intensifiée après l'interdiction de l'UPC, le parti indépendantiste, en 1955. Mais elle ne s'arrête pas avec l'indépendance du Cameroun en 1960. Cette année-là, la France se livre par exemple, selon ce rapport, à des mitraillages et des bombardements aériens d'habitations dans l'ouest du pays. Le document écarte l'utilisation de napalm au Cameroun, mais mentionne le recours à des cartouches incendiaires particulièrement dévastatrices.
Les explications de Florence Maurice. Un an après l'annonce, c'est donc officiel à partir d'aujourd'hui, le 29 janvier, les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, quittent la CEDEAO, la Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Même si cette CEDEAO a donné 6 mois de délai supplémentaire, les 3 pays semblent maintenir fermement leur cap. Au Bénin, la suite du procès de l'homme d'affaires Olivier Boko, d'Oswald Omeki et consorts à Cotonou. Ils sont poursuivis pour complot contre l'autorité de l'État et une nouvelle audience a eu lieu hier devant la Criette sans les avocats de la défense. Les prévenus, en effet, n'ont pas recruté d'autres conseils après la démission collective de leurs premiers avocats la semaine passée. La faute, selon eux, à l'administration pénitentiaire. Une nouvelle audience est prévue aujourd'hui, mercredi. Mieux accompagner les travailleuses du sexe pour tenter d'enrayer la prostitution qui va grandissante au Tchad. Voilà la politique des autorités qui ont initié des rencontres avec ces professionnels. L'objectif, les aider à sortir de la rue pour les orienter vers d'autres secteurs d'activité. C'est la ministre de la Femme, Amina Priscille Longo, qui mène ces échanges à N'Djamena.
Nous avons mis en place un programme sur la parentalité positive et l'éducation des valeurs humaines. Et ensuite, il y a la reconversion qui a été retenue lors de nos échanges avec ces filles. Et pour cela, nous avons instruit la Maison nationale de la femme à prendre en charge ces filles pour les aider à sortir de ces métiers. Nous comptons les former, nous comptons les encadrer pour ne pas qu'elles soient encore tentées par ce vice. Il était aussi notre devoir de leur faire comprendre les enjeux, même liés aux maladies sexuellement transmissibles. Le code pénal ne fait pas clairement mention sur la prostitution. Toutefois, le code interdit le proxénétisme, ce qui nous ramènerait bien sûr à proposer d'autres mesures pour pouvoir encadrer cela et faire en sorte que la prostitution en tant que telle soit juste un délit et pas seulement le proxénétisme.
Les propos de la ministre tchadienne de la Femme, Amina Priscille Longo, recueillis par Olivier Monodi. Un geste qui peut sauver des vies, le don du sang. et les professionnels de santé le disent bien assez. Il n'y a jamais trop de donneurs, souvent pas assez même, c'est régulièrement le cas. À Madagascar, notamment, où les 6 centres régionaux de transfusion sanguine et les quelques 90 points de collecte sur la grande île lancent régulièrement des appels d'urgence. Mais sur place, certains hôpitaux ont trouvé la parade pour éviter au maximum les pénuries. Ils programment certaines opérations uniquement si elles s'accompagnent d'un don de la part d'un proche du patient qui va être opéré. À Antananarive, c'est un reportage de Sarah Teto.
Pansement à la pliure de l'avant-bras, Nirine, 52 ans, sort du centre régional de transfusion sanguine. Cela fait plus de 10 ans que cette vendeuse de rue vient ici 3 fois par an. Le week-end passé, la commerçante a vu sur Facebook l'appel d'urgence du CHU à JRA. Alors elle a profité de son seul jour de congé hebdomadaire pour venir faire don de 3 poches de sang.
À Madagascar, il y a beaucoup de besoins et peu de donneurs. Il y a des gens qui meurent à cause de ça. J'ai une amie qui a perdu beaucoup de sang en accouchant à Tana. Le temps que l'on trouve des poches de sang pour elle, c'était trop tard. Elle est décédée. Je me dis que je peux aider facilement à sauver des vies et c'est ce qui me motive à venir.
Derrière elle, Tania, 19 ans, vient de donner pour la toute première fois son sang. La fierté et un soulagement aussi se lisent sur son visage.
Ma tante va se faire opérer demain et le docteur a dit qu'il faut d'abord qu'un membre de sa famille donne du sang pour qu'elle puisse en recevoir. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est obligatoire, sinon l'opération de ma tante sera reportée.
Si cette stratégie préopératoire combinée aux appels au don du sang permet de maintenir la majeure partie des stocks à l'équilibre, un défi persiste néanmoins. La constitution de réserve en rhésus négatif, particulièrement pour le groupe sanguin au moins. La raison, une très faible prévalence de ce rhésus dans le patrimoine génétique des malgaches. Alors, pour pallier cette rareté, les donneurs au moins, en grande partie des étrangers, ont été recensés pour être sollicités en cas d'urgence. Sarah Teto, Antananarivo.